guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 4, scène 2. Napoléon quitta Dresde le 4 juin. Il y avait séjourné 3 semaines au milieu d'une cour composée de princes, de grands-ducs, de rois et même d'un empereur. Aimable avec les princes et les rois qui méritaient bien de lui, il avait fait la leçon à ceux dont il croyait avoir sujet d'être mécontent. Offert en cadeau à l'impératrice d'Autriche des perles et des diamants enlevés à des souverains et embrassé avec tendresse Marie-Louise, qui se considérait comme sa femme légitime, bien que la première fût à Paris, incapable, à ce qu'il semble, de se consoler du chagrin que lui causait leur séparation. Malgré la foi des diplomates dans la possibilité du maintien de la paix et leurs efforts en ce sens, malgré la lettre autographe de Napoléon à l'empereur Alexandre, commençant par ces mots « Monsieur mon frère », contenant l'assurance sincère qu'il ne voulait pas de guerre, et se terminant par des protestations d'affection et d'estime éternelle, il allait rejoindre l'armée et donnait, à chaque nouveau relais, des ordres incessants à l'effet d'accélérer la marche des troupes dirigées de l'Occident vers l'Orient. Il voyageait dans une voiture fermée, attelée de 6 chevaux, accompagnée de pages, d'aides de camp et d'une nombreuse escorte. Sa route était tracée par Posen, Thorn, Danzig, Königsberg. Et dans chacune de ces villes, des milliers d'individus se portaient à sa rencontre avec un enthousiasme mêlé de terreur. Suivant la même direction que ses troupes, il coucha, le 10 juin, à Wilkowiski, dans la maison d'un comte polonais qui avait été préparé pour le recevoir, rejoignit et dépassa l'armée, arriva le lendemain sur les bords du Niemen, et, mettant un uniforme polonais, descendit de sa calèche pour examiner le lieu désigné par le passage des troupes. À la vue des Cosaques postés sur la rive opposée et des steppes qui s'étendaient à perte de vue jusqu'à Moscou, la ville sainte, cette capitale d'un empire qui lui rappelait celui d'Alexandre le Grand, il ordonna pour le lendemain la marche en avant, contrairement à toutes les prévisions de la diplomatie et à toutes les dispositions de la stratégie. Et ses troupes traversèrent le Niemen au jour fixé. Le 24, de grand matin, il sortit de sa tente, placée sur la rive gauche du fleuve, pour suivre avec une lunette d'approche, du haut de l'escarpement, les mouvements de ses armées, dont les flots vivants s'écoulaient hors du bois et se répandaient par les 3 ponts établis sur le Niemen. Ses armées savaient que l'empereur était là. Elles le cherchaient même du regard, et lorsqu'elle l'avait aperçu sur la hauteur, avec sa redingote et son petit chapeau, se détachant de la suite qui l'entourait, elle jetait en l'air leur bonnet au cri de « Vive l'empereur !» et continuant sans cesse à déboucher de l'immense forêt où elles étaient campées, elles franchissaient les ponts en masse compacte.
« On fera du chemin cette fois-ci. Oh, quand il s'en mêle lui-même, ça chauffe, nom de... Le voilà, vive l'empereur !» C'est donc là ces fameuses steppes de l'Asie, vilain tout de même. Au revoir, Baucher, je te réserve le plus beau palais de Moscou. Au revoir, bonne chance. L'as-tu vu, l'empereur? Si on me fait gouverneur aux Indes, Gérard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrêté. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Oh, les gredins de Cosaques, comme ils filent! Vive l'empereur! Le vois-tu? Je l'ai vu 2 fois comme je te vois, le petit caporal. Je l'ai vu donner la croix à un ancien. Vive l'empereur !
Et 1000 autres propos semblables s'échangeaient dans tous les rangs entre les vieux et les jeunes soldats. Et sur toutes ces figures basanées rayonnait un sentiment unanime de joie, causé par l'ouverture de la campagne si impatiemment attendue, et de dévouement exalté pour cet homme en redingote grise placé là-haut sur la colline. Le 25 juin, monté sur un petit cheval arabe pur sang, Napoléon arriva au galop jusqu'à un des 3 ponts, au bruit des clameurs assourdissantes qui le saluaient au passage, et qu'il ne tolérait que parce qu'il lui était impossible d'interdire ces bruyants témoignages d'affection. On voyait cependant qu'il le fatiguait, et détournait son attention de préoccupations militaires qui l'absorbaient en ce moment. Traversant un ponton qui fléchit sous le galop de son cheval, il prit la direction de Kovno, précédé des chasseurs de la garde qui lui frayaient, à grands cris, un passage à travers les troupes. Arrivé sur les bords du large Niemen, il s'arrêta devant un régiment de Uhlans polonais.
« Vive l'empereur !»
s'écrièrent les Uhlans avec autant d'enthousiasme que les Français et en rompant les rangs pour le mieux voir. Napoléon examina le fleuve, descendit de cheval, s'assit sur une poutre qui gisait à terre et, sur un signe de sa main, un page, rayonnant d'orgueil, lui remit une longue vue qu'il appuya sur l'épaule du jeune garçon pour inspecter à son aise la rive opposée. Puis, étudiant la carte du pays qui était déployée devant lui entre des morceaux de bois, il murmura quelques mots sans lever la tête et deux aides de camp s'élancèrent vers les Uhlans.
« Qu'y a-t-il ? Qu'a-t-il dit ?»
se demandait-on à l'instant dans les rangs du régiment dont le chef venait de recevoir l'ordre de découvrir un guet et de le passer. Le colonel, un homme âgé et d'un extérieur agréable, demanda à l'aide de camp, en rougissant et en balbutiant d'émotion, l'autorisation de ne pas chercher de guet et de passer le fleuve à la nage avec tout son régiment. Il était facile de voir qu'un refus l'aurait désolé. Aussi, l'aide de camp s'empressa-t-il de l'assurer que l'empereur ne saurait être mécontent de ce surcroît de zèle. À ces mots, le vieil officier, les yeux brillants de joie, brandit son sabre en criant « Viva !» commanda à ses hommes de le suivre et s'élança en avant en éperonnant sa monture. Celle-ci se raidissant, il la frappa avec colère et tous deux sautèrent et plongèrent au fond de l'eau, emportés dans la direction du courant. Tous les Uhlans suivirent son exemple. Les soldats s'accrochaient, désarçonnés, les uns aux autres. Quelques chevaux se noyèrent, quelques hommes aussi. Et le reste des cavaliers continua à nager, cramponnés à leur selle ou à la crinière de leurs bêtes. Ils allaient, autant que possible, en ligne droite, tandis qu'à une demi-verste de là, il y avait un guet. Mais ils étaient fiers de nager ainsi et de mourir, au besoin, sous les yeux de l'homme qui était assis là-haut, sur une poutre, et qui ne daignait même pas les regarder. Lorsque l'aide de camp revint auprès de l'empereur et qu'il se fut permis d'attirer son attention sur le dévouement des Polonais à sa personne, le petit homme en redingote grise se leva, appela Berthier et marcha avec lui le long du fleuve en lui donnant des ordres et en jetant de temps à autre un coup d'œil mécontent sur les soldats qui, en se noyant, lui causaient des distractions. Ce n'était pas chose nouvelle pour lui d'être sûr que, depuis les déserts de l'Afrique jusqu'aux steppes de la Moscovie, sa présence suffisait pour exalter les hommes, au point de lui faire, sans hésiter, le sacrifice même de leur vie. Il remonta à cheval et retourna à son campement. 40 Uhlans disparurent, malgré les bateaux envoyés à leur secours. Le gros du régiment fut refoulé vers le bord qu'il venait de quitter. Seuls le colonel et quelques soldats passèrent heureusement et grimpèrent tout ruisselant d'eau sur la rive opposée. À peine l'eurent-ils atteinte qu'ils crièrent de nouveau « Viva !» et qu'ils cherchèrent des yeux la place occupée par Napoléon. Bien qu'il n'y fût plus, ils se sentaient en ce moment complètement heureux. Le soir même, Napoléon, après avoir lancé l'ordre d'accélérer l'envoi des faux assignats destinés à la Russie, et après avoir fait fusiller un Saxon sur lequel on avait saisi des renseignements sur la situation de l'armée française, décora de l'ordre de la Légion d'honneur, dont il était le chef suprême, le colonel des Uhlans, qui, sans nécessité, s'était précipité dans l'endroit le plus profond du fleuve. Quos vult perdere, Jupiter dementat.